Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.
Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. De quoi est-ce que je vais vous parler? Encore d'automobile. Mais vous allez voir, c'est alors ce qu'on appelle l'autopartage, là. Est-ce que, après le Covid, vous acceptez toujours soit de louer votre voiture à des inconnus, soit de monter dans une voiture qui est louée par des inconnus? On va voir ça. A priori, oui, quand même. Et puis ensuite, on partira dans les étoiles. L'espace, ça s'appelle le New Space maintenant. Allez, c'est parti. Et notre premier invité. Avec Benoît Sino, qui est le PDG de Wicar.
Bonjour.
Bonjour, Benoît. On va raconter, Wicar. Juste petit préambule. On en a déjà parlé d'ailleurs ensemble, les géants de la location de voitures sont en train de s'effondrer. Ça se confirme. C'est-à-dire, Hertz a été le premier grand groupe à faire faillite, enfin à se mettre sous la loi de protection des faillites aux États-Unis. Là, on apprend que Robcar n'arrive pas, en fait, malgré des PGE, malgré un soutien public, n'arrive pas à gérer sa dette et donc va sans doute être repris en main directement par ses créanciers. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un modèle là pour les gros loueurs. Alors, est-ce qu'il est derrière nous? Est-ce que c'est juste une pause très, très importante? En gros, c'est les loueurs qui dépendent du voyage. Je parle sous le contrôle de Benoît. T'hésites pas, Benoît, si je dis des bêtises. Donc, qui dépendent du voyage, il n'y a plus de voyage, donc ils s'effondrent. Mais pour qu'ils s'effondrent avec une telle force, c'est que derrière, je pense qu'il y a des sacrées interrogations quand même sur leur business model. Et puis, il y a des loueurs plus petits. Jean-Luc Puerto Salaver, le fondateur d'Ucar, ADA avant, toute son histoire, lui, dans la location de voiture. Il est venu nous voir, Jean-Luc Puerto. Lui, il tient le choc. Lui, c'est la location de proximité. Et on arrive sur Wicar. Tu te considères d'ailleurs comme faisant partie de ce secteur de la location de voiture, Benoît?
Nous, on se considère comme faisant partie du secteur de la mobilité, en général, et de proposer une solution à nos utilisateurs pour avoir un accès simple à une voiture qui n'est pas la leur.
Ouais.
Pour un quelconque déplacement.
C'est mobilité, location de voiture, économie collaborative. C'est un espèce de triptyque là, que tu mets comme
ça. C'est mobilité, accès au véhicule par la consommation collaborative dans une modalité qui ressemble à la location de voiture, mais voilà, qui est avant tout l'accès au véhicule de votre voisin.
Alors, c'est une dynamique. Donc, ça date de 2013-2014, le Wicar.
Fin 2012, début 2013.
Ouais. J'ai été revoir, donc, financé au départ par Marc Simoncini.
Exact.
Voilà. Exact. Tu connais ça par cœur parce que tu étais au début. Non, mais juste, je le dis d'un mot, parce que j'ai été regarder ça pour préparer cette interview. Donc, en fait, ils avaient une grande plateforme de services partagés qui s'appelait Ziloc.
Tout à fait.
Et il y avait une telle demande autour de l'automobile qu'ils ont fait une sorte de spin-off.
Oui, parce que l'automobile, c'est pas la perceuse en fait. L'automobile, on prend la route, il faut qu'on s'assure et ça. Donc l'animal était un petit peu différent de tout ce que faisait Ziloc par ailleurs, qui était l'objet du quotidien. Et donc il a paru effectivement pertinent de sortir les voitures de Ziloc et d'en faire une société à part entière qui se focalisait sur la voiture.
Ouais, mais il y avait une grosse demande aussi.
Il y avait une grosse demande,
bien sûr. Et donc c'était cette dynamique dans laquelle, en gros, l'automobile allait devenir une commodité.
Oui, un service.
Un service. Oui, mais un service, c'est même une commodité, finalement. Bon, voilà. On aurait une sorte de... Bolloré et ses Autolib', c'était un peu ça, voilà. On avait l'automobile générique. Il se trouve que Jacques Aschenbroix, le patron de Valeo, était à ta place la semaine dernière, et il dit, eh ben ça, c'est peut-être terminé, ou on va peut-être en revenir. Voilà, et c'est pour ça que... Eh ben, de cette idée d'automobile commodité.
Oui.
Et tout à coup... Tiens, dans ma voiture à moi, je me sens davantage en sécurité et je veux peut-être davantage l'utiliser et j'ai peut-être moins besoin de la prêter ou de la louer. Donc voilà, je voulais savoir, Benoît, comment est-ce que tu regardais l'ensemble de ces évolutions, s'il y avait des évolutions?
Nous, on a une vision un peu différente. On vit, en fait, pour ce qui nous concerne et ce qu'on observe, en fait, un changement de rapport au véhicule extrêmement profond, en particulier quand on parle aux jeunes générations, qui sont des générations qui sont... habitués à des services de partage, qui sont nés avec pratiquement des Airbnb, des Uber et autres, et pour lequel en fait la possession du véhicule n'est pas une finalité en soi. C'est assez intéressant d'ailleurs dans mes équipes, moi j'ai une cinquantaine de personnes, il y a beaucoup de gens qui ont entre 25 et 32, 33 ans, beaucoup de gens qui n'ont pas le permis de conduire du tout.
Alors là, Benoît, pardon, mais ils ne sont pas représentatifs du tout.
Ils sont représentatifs quand même des populations urbaines.
Ah ouais.
Qui rassemble quand même.
Ultra-urbaine, ultra-connectée. Il travaille chez Wicar.
Qui rassemble quand même 80% de la population française, puisque, en fait, une grosse partie de notre population est dans les grandes métropoles, en fait. Et oui, et en fait, le lien au véhicule en fait change pour ces raisons-là. C'est moins vrai effectivement dans les
alors,
provinces.
Alors attends, mais tu as la réponse. Alors grande métropole, Paris, Bordeaux, le comportement vis-à-vis de l'automobile est le même. Paris, Lille, le comportement vis-à-vis de l'automobile est le même.
Ah ben nous, on observe. Hein, on a une plateforme de marché, hein, donc on observe les comportements. Et en fait, on observe une explosion de ces services-là dans ces villes-là, quelles qu'elles soient. Hein. Nous, nos meilleures villes, c'est pas seulement Paris, c'est Marseille, c'est Lille, c'est Nantes, c'est Rennes, c'est Strasbourg. On a vraiment des villes qui partout en France en fait se mettent à ces services-là. On a d'ailleurs vu dans la mobilité, hein, Vélib, c'est pas seulement parisien. Hein, quand Vélib s'est fait à Paris, tout d'un coup, il y a eu des Vélib à Lyon, il y a eu des Vélib à Toulouse, il y a eu des Vélib à Mans, il y a eu des Vélib partout. En fait, je pense que la mobilité connaît une évolution. Alors, peut-être une révolution, je ne sais pas si on peut aller sur ce mot-là, mais en l'occurrence une évolution qui fait d'ailleurs même que des services comme Autolib il y a quelques années sont des services qui sont peut-être même déjà un peu passés. D'ailleurs, nous, Wicar, on ne se positionne pas vraiment sur la location à l'heure de voitures en ville. Pourquoi ?
C'est fini, Autolib. Attends, je n'ai pas rêvé. C'est...
Oui, mais pas seulement parce que Autolib, mais parce que aussi beaucoup, beaucoup de services de mobilité alternatifs sont apparus depuis ces années Autolib, en fait, que ce soit Uber, que ce soit les scooters électriques, les vélos électriques, la trottinette électrique, etc.
Combien sont rentables ?
Peu.
Parce que si Autolib s'est arrêté, c'est qu'à un moment, Bolloré en avait assez de payer des dizaines de millions d'euros tous les ans pour faire le compte d'exploitation.
Tout à fait. Mais il était aussi face à un modèle économique qui potentiellement structurellement n'était pas forcément rentable. L'autopartage est un modèle de mobilité qui est extrêmement compliqué. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la location traditionnelle. Ce sont tous des modèles avec des coûts fixes élevés. Les loueurs traditionnels ont un problème. Ils ont un coût de possession de la voiture. Vous parliez d'Europcar, je disais leur rapport annuel il y a deux ans. Je crois qu'ils ont un demi-milliard de dollars de coût de possession de la flotte.
De gestion de stock.
Et ça, je ne compte pas ensuite les agences, les salaires des agents, etc. etc. Donc c'est un modèle de coût fixe. Nous, on essaie de se positionner. Et d'ailleurs, effectivement, dans la mobilité, c'est pareil. Hein, quand on a vu en partage des voitures, c'est compliqué, en fait, l'autopartage. Par contre, le partage de trottinettes, je pense que c'est des modèles qui peuvent être effectivement rentables. Pourquoi ?
Parce que moins cher en gestion de stock, tu veux dire ?
Mais surtout, l'actif n'est pas cher.
L'actif n'est pas cher, mais sa durée de vie est courte.
Mais le rapport, en fait, entre les 5 euros qu'on va payer pour quelques minutes de trottinette et les 50 euros du coût de la trottinette, c'est-à-dire pratiquement 10% de son prix, on ne peut pas faire, en fait, une location de voiture qui coûte 10% du prix de la voiture. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, on a un rapport entre la valeur générée par la mise en location et le coût de l'actif, qui est de 1 à 100, en fait, quand on passe de la trottinette à la voiture.
C'est super intéressant, le chiffre que tu viens me donner. C'est un vrai chiffre ou c'est, c'est 50 euros aujourd'hui, Lime
Les chiffres qui courent sur ce marché-là, c'est effectivement
c'est 50 euros la trottinette.
Qui sont pas chères, en fait. Et au final, quand on loue une trottinette, on s'aperçoit assez vite qu'on a vite fait d'y mettre 3, 4, 5, 6 euros pour un trajet qui va du 15e arrondissement au 20e arrondissement, par exemple. Donc je pense que...
Et donc, en 10 trajets, on a payé la trottinette, en fait.
En l'occurrence, le rapport, redoutable. Si vous voulez, entre la valeur qu'on arrive à générer avec une location et le coût de l'actif n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a pu connaître, par exemple, dans les années Autolib. Je pense qu'effectivement, la location traditionnelle a ce même problématique, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'acheter de l'actif pour ensuite le mettre à louer. Nous, on parie sur quelque chose qui est complètement différent, qui est une meilleure efficience de la consommation de la voiture par le partage, en fait. Alors, j'assume de dire maintenant, on ne le disait pas encore beaucoup il y a 2-3 ans, mais qu'on considère aujourd'hui qu'il y a trop de voitures en France. Alors, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, hein, mais si on regarde un petit peu les patterns d'usage de la voiture, leur taux de disponibilité, leur coût d'achat, etc., honnêtement, on pourrait faire la même chose avec 20 millions de voitures. On en a 40 millions aujourd'hui. On pourrait avoir 20 millions de voitures et faire exactement le même nombre de trajets, le même nombre de kilomètres par an, etc. Sauf qu'effectivement, on a une culture historiquement de la possession de ce véhicule, hein, qui pour beaucoup d'entre nous dort très très souvent toute la semaine au parking avant de partir au week-end.
Accessoirement une industrie. Hein.
Et accessoirement une industrie, évidemment.
Mais non, parce que la révolution que tu portes, c'est pas seulement une révolution d'usage.
Bien sûr, voilà. C'est une révolution industrielle. Mais j'allais dire, on peut embrasser l'évolution et les révolutions industrielles ou on peut en résister, mais je pense qu'on va vers ça.
Ce qui me fait dire d'ailleurs, Benoît, je me rends compte, tout ça est passionnant, hein, on a le temps, mais je me rends compte, en fait, on n'a pas précisé, parce que comme si tout le monde savait ce qu'était Wicar. Wicar, l'idée, c'est que vous louez pendant quelques heures la voiture d'un particulier.
Exactement.
Et que Wicar est la plateforme, en fait, qui permet cet échange avec des conditions d'assurance.
Exactement.
Des conditions de sécurité et.
Des conditions contractuelles.
Un protocole sanitaire qui a été. Alors, effectivement, renforcé.
On accompagne nos propriétaires aujourd'hui qui sont très à l'écoute, hein, parce qu'effectivement, nous, en ce moment, le Covid, hein, on dit souvent, il y a des sociétés qui ont un bon Covid. Puis de sait qu'un mauvais Covid. Non, un mauvais Covid.
C'est pour ça que tu es là. Je me disais peut-être que le modèle, en fait, est challengé parce que j'ai plus envie de monter dans la voiture d'un inconnu.
Par contre, et ça, c'est pour le coup, les chiffres sont là à l'appui aussi. On a fait un été exceptionnel. C'est-à-dire que ce facteur qui consiste à dire exceptionnel. Oui, mais la seule différence, c'est qu'on n'avait pas de limitation d'actifs. Ouais. C'est-à-dire que les loueurs, en fait, comme effectivement ils ont eu un problème pendant le premier confinement, ne se sont pas équipés pour l'été. Donc ils sont restés plutôt sur leurs 20-25 000 voitures de l'hiver. Et en fait, quand est arrivé l'été, bah, en fait, ils étaient en retour de stock tout de suite.
Absolument.
En fait, nous, la demande était là et l'offre était là également. Donc en fait, on a fait un excellent été avec extrêmement peu de gens qui nous disaient on a peur de monter dans la voiture d'un autre. Par contre, effectivement, on jouait un rôle d'accompagnement extrêmement fort auprès des propriétaires.
Benoît Sinault, donc le PDG de Wicar. Une pause sur Sud Radio, on repart dans les étoiles.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30-20h.
On va finir cette émission et on va revenir en digital. À la limite, tu pourrais presque, François, être dans une station spatiale internationale. Voilà. On aurait pu la jouer comme ça, en fait. On aurait pu prétendre... Ouais. Que tu es quelque part en orbite. On voit derrière un Starburst. Donc, avec François Chopin, on va parler de ce qui se joue en ce moment dans l'espace. Mais c'est ça qui est très intéressant. Tu nous redonnes un petit peu le concept de Starburst, l'innovation spatiale, François.
Oui, alors, nous, on est avant tout un accélérateur de start-up. Hein, donc, on accompagne des start-up dans le domaine de l'aéronautique, du spatial et de la défense. On a démarré à Paris il y a 7-8 ans. On est maintenant dans 8 pays. On est une soixantaine de personnes et on investit dans à peu près 20 startups par an depuis 3-4 ans. Donc, on a un portefeuille d'à peu près 60 startups.
Et pour bien comprendre, vous êtes le lien entre les grands groupes qui sont quand même le cœur de ce qui se joue sur l'aéro et sur le spatial et puis justement les innovateurs qui peuvent leur apporter des petits éléments pour progresser, c'est un peu ça, c'est ça le sujet.
Alors oui, on a démarré en accompagnant les grands groupes, mais de plus en plus, on travaille directement, alors plutôt dans le militaire et dans le spatial, avec les agences ou les armées. Hein, donc, on a gagné il y a 2 ans un gros contrat avec la DGA et on les alimente en permanence en start-up, mais on a gagné aussi des gros contrats avec l'US Air Force, avec la NASA et d'autres agences américaines. Et l'US Air Force, on va parler un peu des Américains, mais voilà, investit ou donne des contrats à plus de 1000 startups quasiment par an. Elle a pour vocation à mettre plusieurs millions dans 300 d'entre elles, et ainsi de suite, pour former et pour faire émerger les futurs SpaceX.
Et l'agence, j'imagine, c'est cette fameuse DARPA là, dont on parle régulièrement.
Non, le concept de DARPA, c'est un autre concept. La DGA a créé l'AID, l'Agence d'innovation de défense.
Ouais.
Ils sont une centaine de personnes. Ils ont récupéré les budgets de la DGA pour la préparation du futur. Et au sein de cette agence, ils ont une cellule qui s'appelle le Innovation Defense Lab, hein, qu'on héberge dans nos bureaux. Donc, rue Ballard, pas très loin de la DGA, on a investi un immeuble de 7 étages. 2 de ces étages-là sont consacrés à cette Innovation Defense Lab. Et c'est là où ils animent des workshops, des séminaires et ils rencontrent les startups françaises et européennes.
J'imagine que c'est tous les domaines. C'est-à-dire, j'essayais de réfléchir là, pendant que tu présentais le truc, les domaines startups qui peuvent intéresser l'armement. Il y a des domaines privilégiés quand même.
Nous, on s'est concentré sur tout ce qui volait. Hein, donc, mais ça va du drone. Plus ou moins lourd. Donc c'est des drones d'observation qui peuvent servir de relais de communication, qui peuvent faire du transport de marchandises ou de logistique. On voit de plus en plus les voitures volantes. Et donc ça, c'est
sérieux ?
C'est très sérieux. Une des startups de la Silicon Valley vient de lever 600 millions de dollars auprès de Toyota Venture. Parce qu'un certain nombre de constructeurs automobiles considèrent que ça pourrait être le véhicule de transport de demain. Donc c'est très sérieux. Et c'est qu'un exemple. Aux États-Unis, on va retrouver beaucoup de startups qui développent des avions supersoniques. Et donc, il y en a une qui vient de faire rouler son prototype avec 2 personnes.
Comment ça se passe, François ? Parce que c'est là où il y a toujours un truc que j'ai du mal à comprendre. Les enjeux dont tu parles, là, ont des enjeux considérables qui nécessitent des milliards d'investissements. Donc, ça, ce n'est pas à l'échelle même d'une grosse start-up. Donc, où se fait le lien ? Comment est-ce qu'à un moment, en gros, elle devienne Elon Musk, puisque c'est ça un peu le sujet qui revient assez régulièrement quand on discute avec toi.
Mais typiquement, si on regarde, si on fait un parallèle avec la voiture autonome,
ouais.
Hein, on a vu un certain nombre de startups émerger aux États-Unis et se faire racheter pour plusieurs milliards par Google avec Waymo, Cruise avec General Motors, Tesla d'accord. rachète des petites d'accord. boîtes. Hein, donc,
d'accord. Donc, Waymo, par exemple, c'est le prototype de la boîte qui démarre, qui peut encore démarrer dans un garage, on va le dire comme ça, sur pourtant ouais. De l'innovation fondamentale et qui, à un moment, effectivement, va se faire racheter par un grand groupe. Et c'est là que se fait le pont.
Dans un domaine comme le exactement dans un domaine comme le spatial, on a une de nos startups qui est passée par l'accélérateur il y a 3 ans, qui développait un troisième étage de fusée et qui s'introduit en bourse en janvier à 1,2 milliard.
Hein. Troisième donc, étage de fusée, ça veut dire quoi, François? Je comprends pas. Troisième étage de fusée.
C'est-à-dire que tu vois, dans ta fusée aujourd'hui, tu as 2 étages. Le troisième, c'est la coiffe dans laquelle tu mets tes satellites.
Ouais.
Eux, ils ont développé un véhicule que tu mets là-dedans, sur lequel tu greffes plein de satellites. Et une fois qu'ils sont libérés, ils vont déposer les petits satellites sur leur orbite précise. Ils sont associés avec SpaceX et ils ont développé un énorme marché. Parce que SpaceX positionne un endroit, lâche un satellite à un seul endroit dans l'espace.
Ouais.
Mais ça intéresse le plus gros satellite. Les autres, ils ont envie d'aller ailleurs.
Surtout qu'on nous dit que l'heure est au mini-satellite, justement.
Exactement. Et les fusées comme SpaceX ou même Ariane 6 ne sont pas équipées pour ça. En fait, ils sont équipés historiquement pour mettre en orbite 1 ou 2 satellites à des orbites précises. Là, quand on envoie 50 ou 100, la possibilité d'avoir un véhicule supplémentaire, pas trop cher, qui va les déposer de manière assez, assez précise, ça a autant de valeur que SpaceX.
C'est, alors, allons dans l'espace, puisque maintenant qu'on a vu les voitures volantes, les pistes de recherche qui sont les plus intéressantes pour toi?
Ben, tout ce qui va à trait aux services dans l'espace. Hein, aujourd'hui, on a beaucoup de satellites, on va en avoir plus, et donc pouvoir les ravitailler, pouvoir les réparer. La station spatiale, aujourd'hui, on en a une. Je considère que dans 10 ans, on en aura beaucoup plus. Il y a un élément qui va changer beaucoup de choses, c'est que SpaceX aujourd'hui, ils ont une fusée qui s'appelle Falcon 9 qui est déjà beaucoup moins chère que tout le monde. Ils prévoient dans quelques années, et les tests sont quasiment finis, de lancer leur nouveau vaisseau qui est une forme complètement différente. Leur nouveau vaisseau permettra de mettre en orbite 100 tonnes au niveau de la station spatiale pour 10 millions de dollars.
Vous me donnez parce que je ne sais pas aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui je sais pas, Ariane 6, elle met combien en orbite?
Elle met entre 5 et 10 tonnes. Hein. Enfin, un gros satellite, c'est 5 tonnes. Hein. Ils en mettent 2. Alors, en orbite basse, ils peuvent mettre plus de payload. Quand il faut les emmener plus loin,
c'est juste pour qu'on ait une idée de la rupture que va représenter une fusée qui va emporter 100 tonnes.
Donc, ils vont encore diviser par entre 10 et 100 du prix au kilo dans l'espace. Et donc 100 tonnes, c'est quasiment le poids d'une station spatiale. Donc, tu vois, pour 10 millions de dollars, tu peux mettre une nouvelle station spatiale dans l'espace. Hein. Et donc, si tu as des stations spatiales dans l'espace beaucoup moins chères, eh ben, tu peux commencer à y mettre des ordinateurs et faire du cloud computing, commencer à y mettre des usines et fabriquer de la fibre optique, par exemple, potentiellement y mettre des prisons, tu vois, et tout un tas de trucs, des labos pour médicaments, parce que dans l'espace, quand tu n'as pas de gravité, tu fais pousser les cellules de peau qui se développent différemment.
Tu as vraiment le sentiment, alors tu es dedans et tu as vraiment le sentiment que l'espace va devenir une excroissance de la Terre, un endroit à coloniser et qui sera colonisé.
Ce que dit pas Bezos, hein. Musk, il est un peu sur notre créneau, mais c'est que, en gros, son business model de fusée a de sens que si il en lance 2 ou 3 par jour.
Donc Bezos, c'est Blue Origin, hein. C'est vrai qu'on en parle moins que Musk.
C'est Blue Origin.
Blue Origin, ouais, il le finance avec son propre pognon, lui, hein.
Il sort 1 milliard tous les ans.
Voilà.
Et du coup, comme ils ont plus de moyens, ils vont moins vite, il est moins sur le dos des mecs. Donc, c'est pas la même mentalité que Musk. Mais ça a du sens si tu as 10 000 personnes dans l'espace.
François Chopard, donc le fondateur de Starburst, qui était avec nous. Les amis, on se retrouve demain sur Sud Radio pour d'autres aventures d'entrepreneurs.
Elle est la suite des vraies voix qui font bouger la France. En tout cas, tout de suite, on parle de votre patrimoine. C'est Conseil de famille avec Stéphane Moller et Olivier Daudet sur Sud Radio.